Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Aurélie Vernaz est notre invitée. En 2018, sa fille a été blessée grièvement dans un accident de voiture. Avec d'autres personnes, elle a lancé le projet 102 pour sensibiliser aux dangers de la route.
Reportage au Marais du Dévorat à Bourg-en-Bresse, le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides.
Nous irons aussi dans les nouveaux locaux de la recyclette.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourg en bref.
Les Burgiens dans la rue pour dénoncer la hausse des prix.
Ils étaient plusieurs centaines de manifestants devant la préfecture, un rassemblement interprofessionnel rejoint aussi par les professeurs. L'appel était national et intersyndical. À Bourg-en-Bresse, la CGT, FO et FSU étaient les organisateurs. Ils ont dénoncé l'augmentation de l'énergie, de l'essence et de l'alimentation et demandent une hausse des salaires et du SMIC en particulier. Pourquoi vous avez voulu venir aujourd'hui à cette manifestation ?
Parce qu'il y en a marre, parce que c'est le bordel. Je suis fonctionnaire, donc gel du point d'indice. L'inflation qui augmente et pas nos salaires, ça fait mal.
Et c'est dans quelles dépenses du quotidien que vous le ressentez le plus ?
L'alimentation.
L'alimentation ?
Quand on regarde sur la durée, voilà, le panier, il est un petit peu plus cher que précédemment.
Oui, c'est bien dit, c'est vraiment ça. C'est pas au quotidien, c'est quand on fait les comptes à la fin du mois. Ah, tiens, ce que je dépense pour manger, c'est beaucoup plus qu'avant, proportionnellement. J'ai plus rien pour faire autre chose. Voilà, c'est plutôt ça.
Par ma profession, je ne suis pas touché directement, mais je suis solidaire de tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Puis même de ceux qui sont avec un SMIC et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, quoi, hein, avec les augmentations d'énergie qu'on connaît, d'essence, hein, pour pouvoir se déplacer au quotidien. Donc oui, je suis solidaire.
Vous voulez demander quoi au gouvernement ?
Les sous !
Bah déjà, augmentation du point pour les fonctionnaires, pour commencer, pour faire simple.
Réduire le déséquilibre entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui ne gagnent pas beaucoup.
Moi, ouais, c'est bien comme conclusion, ça.
Corinne Jacquet-Garcia, la secrétaire adjointe de l'Union départementale CGT de l'Ain. Avec l'augmentation des produits de première nécessité et en premier lieu de l'énergie, il y a une inflation qui aujourd'hui atteint presque 3% et les salaires ne sont pas du tout revalorisés à la hauteur de cette inflation. Depuis déjà de nombreuses années, les revalorisations salariales ne sont pas à la hauteur de la nécessité de pouvoir d'achat des salariés. Il y a pas mal d'entreprises qui ont essayé de négocier pour avoir des augmentations de salaire avec plus ou moins de succès. Et comme effectivement le patronat n'entend pas la voix de ses salariés, donc on a décidé de descendre dans la rue pour montrer qu'on était solidaire et décidé.
De réelles augmentations de salaire dans les entreprises, l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique, la revalorisation des pensions, la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire. Merci.
Et en tout, 170 rassemblements ont eu lieu un peu partout en France pour défendre le pouvoir d'achat jeudi dernier.
Presque 800 000 euros pour le centre hospitalier Fleria.
C'est le montant donné par l'État dans le cadre du Ségur de la Santé et financé par le plan France Relance. L'argent va être investi pour améliorer le confort des patients et du personnel. Par exemple, avec l'achat de nouveaux lits, de lave-vaisselle industrielle ou encore du mobilier de rangement. D'autres établissements bénéficient de ce fonds du Ségur, comme le centre psychothérapique de l'Ain et la clinique des Arbelles.
La Banque de France de Bourg change d'adresse.
Et depuis ce lundi, il faudra vous rendre 1 rue du 23e régiment d'infanterie pour trouver la Banque de France. Ses anciens locaux dans l'hôtel particulier, avenue Baudin, étaient trop grands pour un établissement où beaucoup de services sont maintenant numérisés.
Radio B souffle ses 40 bougies.
Et à l'époque, son nom était Tropic FM. Le 2 février 1982, notre radio était autorisée à émettre. Quelques années avant, cette radio pirate avait vu le jour au-dessus du café Chez la Jeanne à Bourg-en-Bresse. À la fin des années 70, un peu partout en France et dans le monde, des personnes avaient piraté les ondes avant d'être légalisées pour certaines en 1981 par François Mitterrand. 2014, changement de nom, Radio B est choisi. Aujourd'hui, elle compte 5 salariés et une cinquantaine de bénévoles. L'émission anniversaire de Radio B, c'est ce mercredi à 18h en direct de notre studio. Les bénévoles seront là pour vous parler de la radio. Et c'est sur le 90FM et radio-b.fr.
Des mineurs étrangers sur scène pour un spectacle de danse.
Après une première date complète, une dizaine de jeunes de la Sauvegarde 01 vont présenter une chorégraphie et des textes mis en scène par la compagnie Passaros et Arphonem. Ce sera à la Maison des Jeunes et de la Culture de Bourg-en-Bresse, vendredi 4 février à 20h30. L'entrée coûte entre 5 et 10 euros. Pour réserver vos places, c'est sur culture@mjc-bourg.fr. Et vous pouvez aussi écouter notre reportage sur la première représentation sur le site de Radio B, radio-b.fr, rubrique Info et à vous les Burgiens du 10 janvier.
Radio B, Radio B.
La recyclette s'installe peu à peu dans son nouveau local.
L'association burgienne de réparation de vélos a enfin trouvé un lieu pour ses ateliers. Ça se passe 13 bis rue du Pressoir à Bourg. Un local un peu exigu en hiver, mais qui permet au moins de stocker le matériel et de venir apprendre à réparer son vélo. Mercredi soir, ils étaient 4 novices, encadrés par 3 bénévoles, dont Gaël, qui aide Monique et son compagnon à réparer leurs deux roues.
C'est une chaîne mono-vitesse, donc il n'y a qu'une seule vitesse.
Ouais.
Et du coup, c'est beaucoup moins capricieux que les chaînes quand il y a plusieurs vitesses. Donc là, elle est très usée, mais en s'usant, elle a aussi usé le plateau, les pignons.
C'est quoi le problème ?
Le problème, c'est que c'est un vélo électrique que j'ai depuis 2007, que j'ai beaucoup roulé avec. Et le système de transmission est usé. Le marchand de vélo me conseille de changer de vélo, bien sûr. Et comme je ne me sers plus du système électrique parce que maintenant je suis à la retraite et que j'ai le temps de me déplacer, eh bien, j'ai décidé de ne plus m'en servir comme un vélo électrique et je cherche une solution pour le transformer en vélo normal de ville. Donc on est venu voir des gens qui savent réparer les vélos et transformer les vélos s'il y a besoin.
Du coup, dans l'idée, on se met n'importe où et on casse la chaîne en deux.
Attends.
Bon, voilà, là c'est bon, vous pouvez visser, vous pouvez y aller.
Gaël, on est dans le nouveau local de la recyclette, donc comment vous avez obtenu ce local ?
Grâce à notre rencontre avec la mairie et la CA3B, donc c'est surtout via l'intermédiaire de Isabelle Mestre, qui est à la fois à l'agglo, à la commune et dans le CA de Bourg Habitat. Et donc c'est Bourg Habitat qui nous a fait un bail vraiment très intéressant, où en fait en échange de 3 ateliers par an en bas des immeubles Bourg Habitat, on a à disposition ce local. Et donc l'idée, voilà, c'est que c'est un échange de bons procédés et on en est très content.
Donc là, ça fait à peu près un an que la recyclette existe. Maintenant, vous avez votre local depuis cette année. Comment ça se passe donc pour la recyclette ?
Là, pour l'instant, on a une grosse phase d'aménagement parce que le local est petit par rapport à la place dont on aurait idéalement besoin. Il y a une grosse réflexion sur comment aménager le local pour avoir un maximum de place pour assurer les permanences. Et sinon, à côté de ça, on a toujours des sollicitations de collectivités ou de maisons d'enfants ou de choses comme ça pour animer des ateliers à l'extérieur qui vont sûrement reprendre au printemps quand le temps sera un peu plus clément. Et bientôt aussi l'AG, ce sera en février.
Il n'y a qu'une chance qu'ils ont dû le mettre, c'est le tirage
à l'arrière.
On peut
bricoler un truc. Hein.
Pour venir à la recyclette, c'est 13 bis rue du Pressoir à Bourg-en-Bresse. Les ateliers sont le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h à midi. C'est 5 euros l'adhésion. L'association cherche aussi des bénévoles pour encadrer les ateliers. Pas besoin d'être un grand bricolo, ils vous formeront sur place. Pour les contacter, vous pouvez aller sur leur site larecyclette-bourg.fr.
Un tableau de Gustave Doré de retour au musée de Brou et par la fenêtre.
La scène était insolite vendredi dernier. L'imposante œuvre Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer a retrouvé le monastère de Brou, et pas n'importe comment. Le tableau était à Rome pour une exposition. Il a été défait de son châssis pour être roulé et mis dans une grande caisse. Elle a même été mise dans un camion réfrigéré pour la conserver. Sortie du camion, la caisse a été transportée par une grue pour passer dans une fenêtre sur la droite du monastère à quelques mètres du sol. Une opération assez périlleuse. Pierre-Gilles Giraud, administrateur du monastère de Brou, nous explique.
Alors c'est un exercice de précision puisque le tableau qui est très grand format arrive dans une caisse roulée. Le tableau fait plus de 3 mètres sur 4,50 mètres. Il est donc roulé dans une caisse encore plus longue qui fait plus de 5 mètres et qui doit entrer à l'étage du musée par l'une des fenêtres qui domine le jardin. Et, la difficulté de l'exercice, c'est que le bras télescopique de la grue est évidemment au-dessus de la caisse. Et donc l'intervalle qu'il y a entre le sommet de la fenêtre et la balustrade est quand même assez réduit. Donc il faut viser bien droit et y aller tout doucement pour transporter à l'extrémité, sous le bras télescopique, la caisse à l'intérieur du musée.
Concrètement, elle a été transportée dans quelles conditions ?
Il a fallu justement la gruter, la manipuler avec une grue à chaque étape, au départ de Brou, au retour, et puis à son arrivée et son départ de Rome, et la placer dans un camion de transporteurs spécialisés, évidemment, dans la manipulation d'œuvres d'art. Les conditions climatiques sont importantes, surtout les changements ne doivent pas être trop brutaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on opère en plusieurs temps. Aujourd'hui, on installe la caisse dans le musée, on l'ouvrira pour qu'elle s'acclimate, justement. On l'ouvrira le lundi et l'accrochage définitif n'aura lieu que mardi avec la remise de la toile en tension sur son châssis. Et ça repose à l'intérieur du cadre et bien sûr l'accrochage de l'ensemble. C'est bon ?
L'œuvre Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer sera visible dès ce mercredi pour le public au monastère de Brou.
Deux spectacles au théâtre de Bourg cette semaine.
Mardi 1er février, La Brèche, un spectacle de marionnettes par Une Tribu Collectif. Une fable émouvante sur la vie et l'immortalité. C'est à 20h et c'est conseillé pour les plus de 12 ans. La place est à 12€. Jeudi 3 et vendredi 4 février à 20h, c'est la pièce Taïga de la compagnie Cassandre qui est jouée. Autre histoire, celle du groupe de Tarnac. Plus de 100 policiers viennent arrêter 10 personnes pour avoir saboté des caténaires dans un village de Corrèze. Une comédie déjantée sur ce fait divers. Et c'est 22€ l'entrée.
L'invité de Radio B.
En 2019, un peu plus de 3200 personnes sont décédées sur les routes françaises. En 2020, ils étaient environ 2500, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Mais l'année 2020 restera une année exceptionnelle avec les restrictions de déplacement. Des chiffres en baisse à l'échelle nationale, mais toujours trop importants. Dans l'Ain, 35 personnes sont décédées en 2021. C'est une de plus par rapport à 2019. Alors, vous sentez-vous en sécurité quand vous prenez le volant ? Héloïse, en stage à la radio, est allée à la rencontre de Bressan.
Que vous sentez en sécurité quand vous prenez la route ?
En général, oui. Et ça dépend des conditions météo.
D'accord. Et pourquoi vous vous sentez en sécurité ?
Parce que je suis prudente. D'accord. Je prends très peu la voiture. Je limite mes déplacements au fouillis.
Et pourquoi ?
Parce que j'essaie d'être prudente et de ne pas conduire trop vite.
Pas du tout.
Et pourquoi ?
Parce que les gens sont trop excités au volant.
Ouais. Moi, oui, parce que je sais que je respecte les limitations et puis le code de la route, mais après, ça dépend. De moins en moins en sécurité, si, depuis qu'il y a les trottinettes, parce qu'elles vont très vite. Et puis, une fois sur le trottoir, une fois sur la route, une fois... Et puis souvent, ils sont habillés en noir. Et la nuit, il y en a beaucoup qui n'ont pas de feu. Ils mettent un feu devant, mais souvent, il n'y a pas de feu à l'arrière.
Non, pas trop. Je suis vigilante, je fais attention.
Pourquoi vous ne vous sentez pas trop en sécurité quand vous la prenez ?
Parce qu'il y a des gens pressés, il y a de la civilité, il y a de la fatigue peut-être, tout ça.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter les accidents de la route ?
Déjà que les gens regardent moins leur téléphone quand ils conduisent. Oui. Parce que je pense que là, c'est de pire en pire.
De la prévention, et montrer aussi des images chocs pour ceux qui ont commis des accidents, comme les chauffards.
L'alcool, c'est dangereux, très dangereux. Et puis les excès de vitesse. Être attentif à la conduite, quoi.
Déjà, il y a eu une limitation de vitesse là, à 80, je trouve que c'est bien. Que les gens portent le gilet jaune, parce que quand ils circulent, ils ne portent pas le gilet jaune.
Faire voir aux gens ce qu'on peut devenir si on a un vrai...
Merci aux personnes qui ont répondu à Héloïse en stage à la radio. Prévenir les accidents, éviter les morts, les blessés sur les routes ou encore faire prendre conscience des dangers, c'est le combat d'Aurélie Vernas depuis 2 ans. Aurélie Vernas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez nous parler du projet 102, une initiative nationale. En 2019, 102 enfants, adolescents, sont décédés sur les routes de France. Oui. Ils étaient passagers, piétons et cyclistes. Aurélie Vernas, vous êtes la maman de 3 enfants. En 2018, votre fille Emma a été grièvement blessée dans un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir d'août 2018 ?
Donc c'était le 11 août 2018, ma fille et mon fils étaient donc passagers d'une voiture. Emma était donc à l'arrière avec sa meilleure amie. Alex était donc passager avant et cette voiture était conduite par un jeune de 19 ans qui était à ce moment-là sous l'emprise des stupéfiants, qui a coupé ses feux. A cédé le passage avant de s'engager sur la nationale et une voiture est arrivée à ce moment-là et le choc n'a pas pu être évité. Emma a été grièvement blessée, elle était inconsciente, elle a été donc héliportée à Lyon. Puisque son pronostic vital était engagé, elle a passé 3 mois en réanimation. Et aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, elle se bat toujours puisqu'elle continue sa rééducation tous les jours puisque sa vie a complètement changé. Emma a dû tout réapprendre, à manger, à marcher, à parler. C'est plus la jeune fille d'avant l'accident puisque les séquelles sont importantes. Elle a beaucoup de courage, c'est une battante, elle s'en sortira avec le temps. Voilà.
Alors pour vous, ça a été la découverte d'une nouvelle vie, d'un combat au quotidien avec les démarches.
Bah oui, parce que quand on est en parfaite santé, on s'imagine pas qu'un jour on peut basculer de l'autre côté, c'est-à-dire basculer dans l'horreur complètement. Ma fille, elle était pétillante, elle était pleine de vie, elle avait des projets. On s'imagine pas qu'un jour notre enfant de à ce moment-là 16 ans va devenir dépendant comme quand elle était petite fille. Et bien entendu que lorsqu'on est projeté dans cette nouvelle vie, si on n'est pas accompagné et soutenu par les bonnes personnes à ce moment-là, on est ce qu'on appelle victime plusieurs fois. C'est des démarches administratives assez lourdes qui s'accumulent les unes aux autres. C'est ensuite un combat puisque ma fille était passagère, elle est donc une victime intégrale. Il faut ensuite se battre contre les assurances. Il faut adapter son logement, se dire que sa vie ne sera plus jamais la même, que certainement Emma ne pourra jamais conduire de voiture. Emma, elle a une reconnaissance d'aide humaine auprès d'elle 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'Emma ne peut pas rester toute seule, même 5 minutes. Il faut qu'elle soit toujours accompagnée d'un adulte auprès d'elle pour qu'elle soit en sécurité, puisqu'elle n'est pas capable à ce jour d'être 100% autonome.
Alors vous vous êtes battue pour Emma, à quel moment vous vous êtes dit « je dois partager ce combat »
Alors, écoutez, c'est venu assez naturellement. Je dirais que la première année, j'étais dévouée à 100% à Emma parce qu'il fallait sauver Emma parce que c'était très grave. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie aussi de tendre la main à toutes ces mamans, tous ces papas, toutes ces victimes en fait qui passent par la même route que moi. J'ai eu envie de les aider parce que on m'a aidée à un moment donné. J'ai eu du soutien, des mains se sont tendues vers moi et j'ai eu envie de donner à mon tour.
Alors l'histoire d'Emma, cette nouvelle vie que vous n'avez pas choisie, donc vous les avez partagées. Votre témoignage fait partie des 102 témoignages rassemblés par le projet 102. Comment est né ce projet 102 ?
Le projet 102 a été créé par un collectif de citoyens engagés. Donc on est une équipe de plusieurs personnes, dont une directrice artistique, des personnes qui prennent en charge... des victimes d'accidents de la route. On a eu envie de faire passer un message, de sensibiliser, de conscientiser autrement. Donc 102 représente 102 enfants morts sur les routes en France en 2019. C'est un chiffre qui est juste révoltant, qui est insupportable à entendre, puisqu'en fait, ça fait deux enfants morts par semaine. Ça veut dire que à deux familles, on a des médecins, des gendarmes, des policiers qui ont dû annoncer à ces pauvres parents que leurs enfants étaient morts, soit parce qu'ils étaient en train de marcher sur un trottoir ou en train de faire du vélo ou tout simplement passager dans une voiture. Et voilà, les enfants, nous devons les protéger. Ils ne sont pas responsables de notre folie ni de nos erreurs. Et voilà, on a envie que ce chiffre-là, il résonne.
Donc vous avez envie que ce chiffre, il résonne. Et donc pour le faire résonner, c'était d'associer 102 témoignages avec des œuvres d'art. Expliquez-nous.
On rend hommage à ces 102 enfants qui sont morts sur la route en 2019. Donc il y aura la première exposition qui aura lieu à Paris à la Halle des Blancs-Manteaux du 21 février au 1er mars où seront exposées 102 œuvres d'art. Donc il y aura, ça sera des peintures, des sculptures, des photos, il y aura des artistes internationaux et chaque œuvre d'art sera associée à un témoignage, un témoignage de victimes, de familles de victimes, de soignants, voilà.
Aurélie Vernas, quels sont vos autres projets? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire après ce projet 102?
Écoutez, moi, je suis présidente de l'association Allo Victimes France Rhône-Alpes, qui est une association que j'ai créée. Donc je prends en charge les victimes d'accidents de la route et leurs familles. Je leur apporte un soutien. Je les informe de leurs droits. Je les soutiens également dans tout ce qui va être démarche administrative. L'association est en train de grandir. J'ai également été sollicitée pour un spot de prévention routière avec la sécurité routière, où j'apporte mon témoignage en voix off concernant l'accident de mes enfants. Je m'investis énormément, si vous voulez, tout ce qui va être prévention, accompagnement de victimes, de familles. Moi, j'étais pas du tout là-dedans avant l'accident de ma fille. J'étais dans le bien-être et j'ai eu envie, si vous voulez, ce qui m'est arrivé brutalement dans ma vie. J'ai eu envie que ça serve en fait pour aider les autres victimes, les autres familles. Voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose.
Qu'est-ce qui manque pour l'accompagnement aujourd'hui de ces victimes ?
On ne reçoit pas les bonnes informations concernant nos droits. Et bien sûr, on n'est pas préparé à avoir un accident, donc on n'est pas au courant de tout ça. On le découvre au fur et à mesure. Mais ouais. Tout ça a une importance, puisque ça change, si vous voulez, la prise en charge de la victime.
Oui, parce que vous le disiez, il faut tomber sur la bonne personne avec les bons contacts.
Voilà, il faut être orienté vers les bonnes personnes au bon moment pour avoir les bonnes informations et du coup être pris en charge comme il se doit, c'est-à-dire que ne manquer de rien. Parce que à partir du moment où on devient dépendant, on ne doit pas subir, j'ai envie de dire. On doit pouvoir avancer dans les meilleures conditions. Je dirais sans attendre.
Aurélie Vernaz, merci.
Merci à vous.
L'expo Projet 102 œuvres d'art, 102 artistes et 102 témoignages. C'est du 21 février au 1er mars à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris. Cette exposition voyagera ensuite partout en France, dans les centres de rééducation, dans les hôpitaux, des mairies ou encore des aires d'autoroute. Aurélie Vernaz, la mère d'Emma, et tous ceux qui portent le projet 102 veulent que les gens prennent conscience que la route n'est pas un terrain de jeu, qu'elle se partage et qu'il faut prendre soin de soi et des autres. Retrouvez les témoignages et toutes les informations sur projet102.fr. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides.
Une journée qui rappelle la date de la signature de la Convention sur les zones humides en 1971 à Ramsar, en Iran. Un traité qui permet la conservation de ces lieux et de leurs ressources pour préserver notamment la biodiversité. Les zones humides sont tout simplement des endroits où l'eau est présente tout le temps ou une partie de l'année, comme les tourbières et les marais par exemple. Pour l'occasion, on écoute un reportage sur le marais du Dévora à Bourg-en-Bresse, un extrait d'une émission réalisée en atelier avec des jeunes de 7 à 13 ans.
Bonjour à tous, je m'appelle Régis Crick-Jacquier. Je suis ce qu'on appelle un naturaliste, c'est-à-dire une personne qui s'intéresse aux sciences de la nature. Je fais partie de plusieurs associations, dont une qui s'appelle Saint-Pétrum, et qui est donc une association régionale qui s'occupe des libellules. Et moi, mon travail, c'était de faire l'inventaire des libellules qui existent sur le marais du Dévora.
C'est quoi un marais ?
C'est pas toujours facile à expliquer ce qu'est un marais. On va dire que c'est une zone qui peut être avec du bois ou avec de la prairie, mais où il y a de l'eau à peu près en permanence, sur au moins une partie. C'est-à-dire que quand on est dans un marais, on va se retrouver avec des arbres, avec des plantes, et on va se retrouver toujours avec de l'eau. Alors si on vient en plein hiver, en général, il y a beaucoup d'eau, et si on vient en plein été, il n'y a plus que quelques petites mares. On est au bord de la zone humide. Donc on a toujours le ruisseau du Dévora qui passe ici. Et puis là, donc, vous allez voir, on a toute une zone qui est avec de l'eau un petit peu partout. Il y a des mares, il y a des zones de marais, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le marais du Dévora. Alors c'est très grand, on va en faire qu'une toute petite partie. En fait, ça fait déjà longtemps que cette zone-là est connue. Et ça fait juste quelques années qu'on a décidé, donc avec plein de personnes. Alors dedans, il y a la ville de Bourg, il y a le syndicat du bassin versant de la Ressouze, donc c'est un syndicat de rivière. Il y a des entreprises comme Renault Trucks qui sont à côté. Et puis, il y a des associations qui ont décidé donc de faire des inventaires sur la faune.
Dans le marais, on a vu beaucoup de libellules, des coccinelles et des papillons. Régis a même capturé une libellule pour qu'on l'observe.
Alors là, je viens de capturer une libellule qui s'appelle Calopteryx vierge. Et je viens de la mettre donc dans une petite cage spéciale pour qu'on puisse la regarder. Alors voilà.
Oh, elle est belle.
Elle est belle, hein ?
Elle est très très belle.
Elle est bleue ?
Ouais,
elle est bleue. Alors elle est bleue, vous voyez, il y a beaucoup de libellules bleues. Hein.
Est-ce qu'elle est rare ?
Alors celle-ci, elle n'est pas rare du tout. Par contre, elle a une particularité, celle-ci, c'est qu'elle va vivre sur les petits ruisseaux comme le Dévora, mais dans les endroits qui sont plutôt à l'ombre. Hein. Si on va dans les endroits où il y a beaucoup de soleil, on ne l'aura pas. Donc ça s'appelle un Calopteryx vierge. Alors, je vais la relâcher. Voilà.
Qu'est-ce qui vit dans ce marais ?
Alors, dans un marais, on a plein de choses qui vivent. Alors, on a des plantes et puis on a des animaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes vivent aussi. Alors, parmi les plantes, on a des plantes qui sont particulières au marais, c'est-à-dire qu'on va trouver que dans les zones humides, donc dans les zones où il y a de l'eau. Et au niveau des animaux, eh bien, on va trouver également des animaux qui vont fréquenter les zones humides pour plusieurs raisons. Par exemple, les libellules, elles sont dans les zones humides, là où il y a de l'eau, donc dans les marais, parce que la première partie de leur vie va se passer sous l'eau, pendant plusieurs mois à plusieurs années. Donc elles ont besoin d'être dans l'eau, c'est pour ça qu'on va les trouver à proximité de l'eau.
Pourquoi faut-il protéger le marais du dévorat ?
Alors le marais du dévorat, le protéger, c'est en fait pour garder un espace naturel véritable dans la ville de Bourg, hein, parce qu'autrement on a des parcs et des jardins, etc., mais c'est moins naturel. Là on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment pour la nature. Ça, c'est pour conserver ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire la biodiversité, c'est tous les êtres vivants qu'on va trouver sur le marais. Donc, comme je disais tout à l'heure, les plantes, les animaux. Donc, dans les animaux, on va avoir des insectes, on va avoir des oiseaux, on va avoir des mammifères, hein, on a des chevreuils, on a du lièvre, on a des petits rats, etc. L'autre intérêt de protéger le marais du dévorat, c'est qu'en fait, un marais, ça a une utilité pour l'alimentation en eau des rivières. Quand vous avez une rivière, pour que la rivière continue à avoir de l'eau, même en période d'été, quand il fait très sec, eh bien, il faut qu'il y ait un marais qui puisse l'alimenter. Sinon, si tout est sec, il n'y a plus d'eau. Hein? Voilà. Et puis, l'autre avantage aussi du marais, c'est que pendant les périodes où il pleut beaucoup, le marais, lui, il va absorber l'eau. Et en absorbant l'eau, il va éviter qu'on ait des inondations trop grosses à l'aval du marais. Donc protéger le marais du dévorat, ça veut dire qu'on va conserver de l'eau pour l'été, pour que la rivière, donc le dévorat, mais aussi la ressource, puisque le dévorat va se jeter dans la ressource, donc on va conserver cette eau, et en même temps, on va prévenir les risques d'inondation dans la ville de Bourg.
Merci à Régis pour nous avoir fait visiter le marais du dévorat.
Et en plus du marais du Dévorat, le département de l'Ain possède de nombreuses zones humides. Il est recouvert à 8% de ces riches milieux naturels qui sont célébrés tous les ans le 2 février.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Bonne semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, il y a une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.